émission spéciale avec Nadia Bey sur Radio Orient. Vivre l'Orient en France.
Mesdames, messieurs, bienvenue sur Radio Orient et ravi de vous retrouver dans ce rendez-vous d'information pour traiter d'un sujet d'actualité. Un sujet, il faut le dire, qu'on n'épuisera jamais suffisamment. Vous l'aurez compris, il s'agit de la Palestine. Oui, la Palestine qui vous habite et qui nous habite, la Palestine qui nous préoccupe et vous préoccupe. Mais force est de constater que la paix n'est pas encore au rendez-vous. Alors, à quand la paix dans cette région ? Le temps de la paix est venu, c'est ce qu'a affirmé avec force le président de la République Emmanuel Macron depuis la tribune des Nations Unies. Un discours sans précédent, il faut le dire, annonçant la renaissance et la reconnaissance, vous voyez, c'est un lapsus significatif, donc la reconnaissance de l'État de Palestine. Il est le premier président de la Ve République à le faire, le 22 septembre 2025, une date à retenir. La symbolique est forte, mais reste à savoir si elle est suffisante justement pour impliquer des retombées. Bien sûr, des retombées, c'est la paix dans cette région. La paix dans cette région et mettre fin justement à cette guerre meurtrière à Gaza. Le chemin pour la paix est visiblement en cours. Vient s'ajouter le plan de Donald Trump, l'allié d'Israël, qui a dévoilé un plan de paix en 20 points soutenu par, pour l'heure, hein, faut le dire, par Netanyahou, par l'ensemble des pays occidentaux, mais aussi les pays arabes. Reste à savoir si le Hamas va valider ce plan, c'est toute la grande question. Alors, pour en parler avec nous dans les studios de Radio Orion, des invités et pas des moindres, et des interventions aussi par téléphone, et j'ai l'immense plaisir de recevoir Amélia Lacraffy. Bonjour. Amélia Lacraffy, députée de la 10e circonscription des Français de l'étranger, qui comprend 49 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Amélia Lacraffy, on l'a connue macroniste, mais visiblement, elle a pris ses distances depuis 3 ans, et elle va nous dire pourquoi d'ailleurs. Et sur le plateau également, Nadji El Khatib. Nadji El Khatib, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes franco-palestinien, né au Liban, docteur en sociologie. Et nous aurons tout à l'heure par téléphone une éminente historienne, Sandrine Mansour, depuis la ville de Nantes. Et nous entrerons en contact également avec la maire du 14e arrondissement, Karine Petit. Voilà pour le sommaire. Et pour entrer dans le vif du sujet avec nous, je vous le disais, Amélia Lacraffy, vous avez fait partie de la délégation du président Macron. Le Proche-Orient, il faut le dire, c'est votre zone. Hein. Et ce voyage, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il a été un succès ?
Alors oui, alors, je n'ai pas fait partie de la délégation en tant que telle. J'y allais avec l'Assemblée parlementaire à la francophonie que je dirige depuis le mois de mars, invitée par Louise Mouchkiwabo, la secrétaire générale de l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie. Et quand l'Élysée a su que j'y étais, ils m'ont ajoutée à la délégation. Et pour mon plus grand bonheur, d'être présente pour ce jour historique, ça m'a fait quelque chose. Donc oui, finalement, toutes les planètes étaient alignées pour que j'y sois.
Bon, excellent. Alors juste pour nos auditeurs, bien sûr, je le disais tout à l'heure, vous êtes députée de la 10e circonscription des Français de l'étranger qui comprend 49 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Vous êtes mère d'une fille et vous venez du monde de l'entreprise puisqu'on a eu le plaisir dans cette radio de vous recevoir avec votre casquette professionnelle, une grosse entreprise dans la cybersécurité, diplômée de l'Institut National des Hautes Études de Sécurité et de Justice à l'école militaire, rien que ça. Vous présidez le groupe, vous venez de le dire, parlementaire.
Je suis déléguée générale de l'Assemblée parlementaire à la francophonie qui réunit 99 parlements dans le monde entier.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire justement pourquoi vous avez, il y a 3 ans, pris votre distance vis-à-vis de Renaissance ?
Alors, c'est très précis. Dès lors que l'ancien dirigeant de Renaissance a retweeté Bardella, en fait, ça m'a laissé sans voix. Je me suis dit, depuis quand les macronistes n'ont pas d'idée pour tweeter tout seul ? Est-ce qu'ils ont besoin de retweeter Jordan Bardella ? Ça m'a ulcéré.
Mais ce n'est pas une façon de vous préparer pour 2027, Amélia ?
Absolument pas. Et En fait, j'ai été confortée dans mes distances quand j'ai vu le traitement du conflit israélo-palestinien par la majorité.
Voilà qui est dit. Voilà qui est dit. Donc, vous avez pris vos distances, surtout pendant cette guerre de Gaza. Vous vous êtes dit, c'est pas normal qu'il n'y ait pas reconnaissance.
Que ce soit le seul groupe qui ne suive pas les dires du président.
Ouais.
Et d'entendre mes collègues dire, bah, écoute, on n'est pas obligé de suivre le président. Je fais, ah bon, c'est nouveau.
Ouais.
je trouve ça très vite. Pour tout, oui, mais pour ça, non.
Et qu'est-ce que vous pensez du bilan du président ? On n'est pas encore à l'heure des bilans, mais en un mot. Vous êtes toujours apparentée, bien sûr, Renaissance.
Je suis apparentée Renaissance à l'Assemblée nationale, parce que sinon, c'est compliqué de travailler et de pouvoir faire des rapports, etc. Donc, si on veut travailler, comme j'ai envie de travailler, je suis restée apparentée. Mais je ne suis plus membre de plein de droits. Et ensuite, bah, j'ai envie de dire, on fera le bilan
mais
2027.
Mais c'est quoi votre casquette, non, avant 2027 ?
Aucune.
S'il y a dissolution, parce que, bon, c'est, on parle de dissolution de l'Assemblée de plus en plus. Amélia va se présenter avec quelle casquette ?
Mon mouvement, France Plus. Que je suis en train de lancer.
Elle a créé un mouvement France Plus, hein, vous pouvez la rejoindre si vous voulez. C'est aussi
initié par les Français des Émirats.
Ah,
c'est eux qui l'ont demandé.
C'est important. Voilà. Donc vous dites que c'est un succès diplomatique cette reconnaissance de l'État de Palestine.
Absolument. Et voilà, en plus pour la 80e AG, Assemblée générale des Nations Unies, je pense que ça tombait très bien.
Ouais.
Et je déplore tous ceux qui se sont offusqués de cette reconnaissance. En disant que c'était un cadeau à Hamas, non en fait. Et j'essaye de leur dire le plus paisiblement possible que reconnaître la Palestine et que les Palestiniens puissent enfin vivre dans la dignité, dans un État, n'est pas être contre Israël ou vouloir les anéantir.
Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que ça ne vient pas un peu trop tard ?
C'est jamais trop tard, j'ai envie de dire. On ne va pas refaire l'histoire et pour moi, c'est jamais trop tard. C'est là. Faisons en sorte que tout le monde, à son niveau, fasse quelque chose. Pour que enfin, j'ai envie de dire, qu'on ait la paix dans cette zone. Et clairement, moi, quand j'ai salué le président à New York, je lui ai dit merci. Et je ne pensais pas que de mon vivant, la France reconnaîtrait. Parce que depuis 8 ans, je lui demande, et depuis 8 ans, il me dit c'est pas le moment. Donc je lui ai dit merci.
Vous l'avez vécu ce moment ?
De pas le vivre de mon vivant.
Comment vous l'avez vécu ce moment ? Et c'était très émouvant, j'imagine.
Un moment suspendu. On n'entendait pas une mouche voler dans cette salle de l'Assemblée générale. Et tout le monde était très, très, très concentré pendu aux lèvres du président. Et quand il a dit enfin cette phrase, c'était quelque chose.
Il y a d'autres phrases qui n'étaient pas dites également. Donc, on va revenir sur ce discours. À mes côtés, Nadji El Khatib, vous êtes franco-palestinienne, née au Liban, d'une famille de réfugiés, bien sûr, palestiniens. Vous avez fait vos études en France, à l'Institut des Hautes Études, et vous décrochez un doctorat en sociologie. Vous vivez en France en famille, à Paris, plus exactement, et vous êtes père de 4 enfants. Alors, vous avez créé un mouvement, où vous êtes donc ancré dans un mouvement qui s'appelle Daula Demokratia Wahida, c'est-à-dire One Democracy State. C'est bien ça ?
One Democratic State.
Alors, dites-moi, vous, comment vous avez vécu justement ce grand discours historique ? Je ne sais pas si vous êtes d'accord, quand même le 22 septembre restera aujourd'hui dans l'histoire avec cette reconnaissance de l'État de Palestine. Nadji El Khatib.
Non-événement. En réalité, non-événement pour la raison simple.
C'est un non-événement pour vous ?
Pour moi, c'est un non-événement. Car il s'agit d'une reconnaissance d'abord trop tard, et deuxièmement, au lieu de reconnaître l'État de la Palestine, il faut dire un mot sur le génocide actuel. Dans le discours de Macron, il n'y a pas une seule fois que le mot génocide a été prononcé. Et pour nous, Palestiniens, c'est un scandale. C'est un scandale, car la Palestine souffre le martyr. Et voilà, on vient de vendre des slogans vides de contenu. La France et Macron en personne sont complices du génocide. L'acheminement d'armement et de munitions et la technologie militaire française à l'État d'Israël, génocidaire, il continue en permanence. Vous allez visiter le site Stop Arming Israel pour avoir la documentation précise sur toutes les livraisons d'armes, de munitions et des technologies françaises à l'État d'Israël pendant le génocide.
Alors, donc, réaction avec vous tout de suite, immédiatement avec la députée. Justement, je disais qu'il y avait des phrases qui manquaient, justement, en l'occurrence, la situation génocidaire. Pourquoi ça n'a pas été évoqué ?
En fait, je comprends votre émotion, je comprends ce que vous dites et je comprends ce que vous ressentez étant palestinien vous-même, évidemment. Mais j'ai envie de dire, crime de guerre, oui. volonté génocidaire par certains membres de ce gouvernement d'extrême droite, oui.
Bah oui, mais justement, il aurait pu parler d'une situation génocidaire.
Mais génocide en tant que tel, je ne sais pas, en fait. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on peut critiquer ce qui est passé, évidemment, et le temps des critiques viendra. Mais moi, j'ai envie d'être dans la construction et encore une fois, je comprends. Je peux comprendre. Alors, moi, j'ai envie d'être dans la construction et de dire, ils ont fait un travail colossal, sans bruit, depuis plus d'un an. L'Élysée, le ministère des Affaires étrangères, enfin vraiment, il y a un travail sans bruit qui s'est fait depuis plus d'un an, avec tous les pays de la Ligue arabe, beaucoup avec l'Indonésie, pour être sûr qu'il y ait, que ça serve à quelque chose, qu'il y ait un jour d'après, que ça s'arrête. Maintenant, sur la livraison d'armes, je suis désolée, mais on a auditionné plusieurs fois le ministre des Armées, et non, il n'y a pas de livraison d'armes qui sont à destination de faire la guerre à Gaza. Non, il y a des livraisons de des boulons, enfin des petits matériaux.
Même à l'échelle européenne, il y a des échanges.
Le cœur de Marseille,
l'accord d'association avec l'Europe, on ne parle pas tous en même temps.
Qui servent, donc c'est des pièces détachées, qui servent à faire des armes pour la France. En fait, c'est des usines que nous n'avons pas et les pièces que nous envoyons sont montées et elles reviennent chez nous. Donc il n'y a pas de livraison de Marseille, qui ont arrêté tout un bateau. C'est du matériel destiné à être monté en Israël et relivré chez nous pour nous.
Oui, mais
maintenant, est-ce que je vais dire que le ministère nous a menti devant la commission des affaires étrangères? Je ne pense pas. Alors, mais moi, je répète ce qu'on nous a été dit en commission des affaires étrangères, c'est des livraisons pour nous.
Les caisses qui étaient ouvertes par hasard par les deux cœurs de Marseille, elles contiennent des munitions à destination de l'armée israélienne.
Voilà. Alors, Gaza est en ruine aujourd'hui. Gaza, c'est plus de 65 000 morts et 167 000 blessés. Bien sûr, des enfants, des femmes, une population affamée, situation humanitaire les plus dramatiques et les plus catastrophiques. On est, avec déplacement de population, on se demande si on n'est pas dans une situation, justement, génocidaire. Alors, avec nous, par téléphone, je vous le disais, Sandrine Mansour, qui est donc une éminente historienne. Bonjour, Sandrine Mansour. Vous nous entendez ?
Bonjour à toutes. Oui, vous m'entendez, là ?
On vous entend. Et vous nous recevez à Nantes, puisque vous écoutez régulièrement Radio Orient. Alors, merci de nous rester fidèles. Sandrine Mansour, avec vous, on va rappeler un peu l'histoire. C'est quand même important. On se rappelle qu'en 48... il y a eu un partage. Pourquoi à ce moment-là, justement, on n'a pas décidé de la reconnaissance, justement, de l'État de Palestine?
C'est une excellente question. C'est pour ça qu'il est fondamental de revenir à l'histoire. Et je remercie les personnes présentes avec vous, mais il est évident qu'on ne peut pas comprendre et analyser ce qui se passe aujourd'hui si on ne revient pas à l'histoire. La reconnaissance de la Palestine, elle aurait dû être effectivement immédiate. Je rappelle que c'était dans l'après-démantèlement de l'Empire ottoman où les grandes puissances de l'époque, la France et la Grande-Bretagne, se sont partagées ce Moyen-Orient pour des raisons de ressources. Je reviens à cette notion aussi parce qu'elle est permanente avec un programme de colonisation, avec différents types de colonisation en fonction des régions. Également l'aspect, j'allais dire, raciste qu'il faut rappeler de civilisationnel, de volonté de civiliser des gens qui n'étaient pas considérés comme civilisés. C'est le contexte dans lequel on était. Et quand on réfléchit aujourd'hui par rapport au déni de l'histoire des Palestiniens, il est créé dès le départ, c'est ce que j'appelle les 4D. D'abord, la dépossession de la Palestine aux Palestiniens. On leur a pris leur territoire. Un pays qui est l'Angleterre, la Grande-Bretagne de l'époque, donne un territoire qui ne lui appartient pas à une population européenne. Je rappelle que le mouvement sioniste est un mouvement européen. Ce sont des Européens qui créent ce problème en Palestine. Et ça va très bien à la Grande-Bretagne parce que c'est par antisémitisme que la Grande-Bretagne accepte le projet, entre autres, parce que c'est une manière de se débarrasser des Juifs d'Europe.
Alors, dites-moi, Sandrine Mansour, pour revenir un petit peu, merci pour ce rappel historique. Sandrine Mansour, justement, un mot sur la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, par Emmanuel Macron. Un événement, un non-événement, on a entendu ici, bien sûr, c'était une avancée diplomatique. El Khatib disait que c'était un non-événement. Et pour vous, c'est quoi ?
Écoutez, c'est une opération de marketing qui est très bien orchestrée. Alors oui, il faut reconnaître l'État de Palestine. Oui, c'est trop tard. Il aurait fallu le reconnaître il y a très longtemps. Parce que quand on lit le mot Palestine, reconnaissance du mot de Palestine, quelle carte est attachée à ce mot? Vous savez qu'à l'ONU, chaque pays a une carte en face. Le seul pays membre de l'ONU qui n'a pas de carte, c'est Israël. Parce qu'il est en constante évolution, il prend en permanence du territoire, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Gaza, et c'est la même chose d'ailleurs pour le Liban aujourd'hui, je ferme la parenthèse sur le Liban. Donc la reconnaissance aujourd'hui, sans évoquer le génocide, sans évoquer l'épuration ethnique, sans évoquer l'occupation, sans évoquer la colonisation, est vide de sens en fait réellement. Et qu'à un moment donné, c'est quelles sont les conséquences. Aujourd'hui, il y a la flottille, je vais parler de la flottille Soumoud qui est en partance, enfin, qui est sur le chemin de Gaza. Il y a eu des appels à la protection des civils français qui sont sur ces bateaux. Ils sont tous des citoyens, citoyennes humanitaires. L'Allemagne, l'Italie a envoyé, alors qu'on aurait pu imaginer que non, a envoyé une flottille. Il y a apparemment la Turquie qui se joint également, la Grèce se joint. Et la France n'a toujours rien fait. Elle reconnaît un État, mais ne protège pas. Elle reconnaît un État. Et alors, ce qui est très important de dire dans cette reconnaissance, savez-vous que la France est un pays qui a une place essentielle en Palestine depuis le 19e siècle, en tant que puissance catholique. Elle a énormément de bâtiments qui lui appartiennent en Palestine, des bâtiments religieux, mais pas que. Le consulat général de France à Jérusalem joue un rôle historique fondamental. Et malgré ça, elle est bafouée dans ses propres droits, dans ses propres bâtiments également en Palestine.
Et vous écouterez l'intégralité de l'émission ce soir à minuit. Et une rediffusion est prévue le samedi à 11h du matin. Restez branchés sur nos programmes.
Émission spéciale avec Nadia Bey sur Radio Orient. Vivre l'Orient en France.